Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en demandant à la Vierge Marie de nous conduire, de nous guider. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais avec vous aujourd'hui faire, comme on dit en italien, un riassunto, une récapitulation de ce dont nous parlons. Nous parlons de la résurrection, et je voudrais, avec vous et pour vous aujourd'hui, lire et commenter ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique là-dessus, car c'est notre foi, le cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit saint Paul, vide notre prédication. Autrement dit, je parle pour ne rien dire. Et puis, l'Église, pareil, elle n'a rien à annoncer si Jésus n'est pas ressuscité. On arrête tout. On arrête l'Église, on arrête tout. Ben oui, pour raconter qu'on a bien aimé quelqu'un pendant 3 ans et qu'il est mort, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et en plus, si la mort n'a pas été vaincue, ah ben, aucun intérêt non plus. Or, la mort est vaincue, et rappelez-vous, non seulement la mort physique, j'allais dire, mais la mort spirituelle. Jésus est vainqueur de la mort, vainqueur du péché. Il est non seulement mort, mais ressuscité d'entre les morts. Et alors, c'est le cœur de notre foi, le kérigme, ce que l'Église annonce. Jésus est mort et ressuscité pour toi, pour que tu meures au vieil homme, pour que tu ressuscites à la vie de Dieu. C'est possible! Tu ne vas pas rester toute ta vie dans les ténèbres du péché. Non, tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour vivre. Non pas pour survivre, mais pour vivre. Jésus est la vie. Jésus est ta vie. Quelle grâce! Et alors, c'est celles qui ne connaissent pas Jésus, ils entendent parler de loin, ils entendent des trucs de loin. Tu peux ouvrir ton cœur aujourd'hui à ce Jésus que tu connais très très peu. Tu n'es pas obligé d'avoir un doctorat en théologie pour accueillir Jésus dans ta vie, non. Tu n'es pas obligé d'être un grand savant, un grand sachant. Tu peux juste ouvrir ton cœur humblement, petitement, en disant « Jésus, moi je sais pas bien, il y a des catholiques là, Et puis il y a des protestants, il y a des orthodoxes, il y a des chrétiens, ils causent de... Bon, ils disent des trucs. Eh oui. Ah, je sais pas, mais ça m'intéresse. Ah, tu as un petit désir? Tu as un petit désir? Ah, ouvre ton cœur et tu vas voir, je te garantis que Dieu va s'engouffrer. Et que ce Jésus dont tu as entendu parler, parce qu'il y a quand même des gens qui parlent de Jésus. Ah, bon. Heureusement. On ne parle pas que de pédophilie, hein? Bon, on est quand même là pour annoncer la résurrection de Jésus, alléluia. Alors, dans les paragraphes 639 et suivants du catéchisme de l'Église catholique, nous disons que le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constaté. Ah bon? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui disent bah « Non, Jésus n'a pas existé ». Bon, désolé pour toi, mais historiquement c'est faux. Puis Jésus n'est pas mort, bon, bah, c'est historiquement faux. Puis Jésus n'est pas ressuscité, ben je suis désolé, mais il y a des événements, un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées. Ah bon, c'est où? Dans quel document? Parce que l'historien, il a besoin de documents. Bon, ah ben il y a le Nouveau Testament. C'est un document, le Nouveau Testament? Ben oui, c'est un document, bien sûr. Un vrai document, avec des vrais gens qui ont écrit. Déjà, saint Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56. Je cite, « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu. à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux douze. 1 Corinthiens 15. D'ailleurs, tout le chapitre 15 de la première aux Corinthiens parle de la résurrection, c'est magnifique, nous allons y revenir. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Parce que rappelez-vous, Saul de Tarse, eh ben, il n'a pas été baptisé tout petit, non. Persécuteur de l'Église quand même, persécuteur des chrétiens. Il a tué des chrétiens, d'accord ? Saul de Tarse, meurtrier. Ah, bon, meurtrier ? Eh, conversion. Je suis celui que tu persécutes. Quand tu persécutes un chrétien, tu persécutes Jésus. Conversion de Saul de Tarse, et voilà qu'il se convertit et qu'il se met à devenir Paul, Saint Paul, et qui va faire l'expérience dans sa vie concrète du salut. Il était mort, Saint Paul. Il ne savait pas qu'il était mort, Saul. Il pensait que c'était bien. Il avait un zèle. Très mal éclairé, mais un zèle. Très mal éclairé. Puis il voulait tout bien faire, il fallait qu'il ait des mandats. L'autorisation de massacrer les chrétiens. Oh. Il fait l'expérience dans sa vie concrète qu'il était mort, au fait, et donc, mais qu'il peut ressusciter. Il passe de la mort à la vie, il se fait baptiser, il entre dans la vie, de sorte qu'il va apprendre qui est ce Jésus qu'il n'a pas connu de son vivant. Alors il reçoit la tradition, vivante tradition, vivante transmission de quoi ? De la résurrection ! La résurrection est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées comme l'atteste le Nouveau Testament. L'écrit, toujours, c'est toujours comme ça dans la vie, on écrit ce qu'on vit. On écrit des faits, on écrit des choses. Ça s'est passé dans un tel lieu, à une telle époque. C'est très précis, historiquement, géographiquement. C'est situé. L'événement de la résurrection, constaté par le tombeau vide. Ben, il était là, il n'est plus là. Alors, ah ben oui, il y a des gens qui ont dit que les disciples sont venus et puis ils ont piqué le corps et puis ils sont partis avec. Vous direz ça, d'accord ? Allez, on vous donne des sous et puis c'est ça que vous direz. Ah. Et puis cette rumeur continue à être transmise aussi. Sépulcre vide. Alors, vous vous souvenez de tous les passages des évangiles extraordinaires que nous avons médités avec les saintes femmes, avec Marie-Madeleine, Pierre et Jean, qui constatent que le tombeau est vide. Eh bien, évidemment, ils savaient très très bien où il avait été mis, évidemment. Ils courent au tombeau, il n'est plus là. Il y a les apparitions des anges, de quelqu'un de mystérieux qui est pris pour un jardinier, c'est Jésus ressuscité. Et puis, constatation que dans ces apparitions, ce Jésus ressuscité n'est pas simplement revenu à une vie terrestre, comme cela avait été le cas de Lazare, par exemple. Non. Il y a donc la constatation du tombeau vide et les apparitions du ressuscité. Et le catéchisme nous dit « Tout ce qui est arrivé dans le séjour des pascal engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement. dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Ah, c'est beau ça, l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Est-ce que, chers frères, chères sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que pour toi, dans ta vie concrète, est-ce que pour toi a débuté une ère nouvelle au matin de Pâques? Aujourd'hui, est-ce que c'est Pâques dans ta vie? Est-ce que c'est le début d'un temps pascal pour toi? Comme témoin du ressuscité, il demeure les pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage, écoutez bien, d'hommes concrets, connus des chrétiens et pour la plupart vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les douze, mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. C'est curieux, il y a des historiens. Ils se disent, je ne sais pas, agnostiques, athées, etc. Ils disent non, non, c'est pas un fait historique. C'est bizarre quand même. Est-ce que l'athéisme voilerait l'intelligence? Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître annoncée par celui-ci à l'avance. Rappelez-vous, Jésus avait annoncé non seulement sa passion, son procès, sa mort, mais aussi sa résurrection. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent des disciples abattus, visage sombre, disciples d'Emmaüs, effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes, parce que c'était des femmes. Non, ça je rigole, hein. C'était pour voir si vous suiviez. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau et leurs propos leur ont semblé du radotage. Tiens, tiens. Quand Jésus se manifeste aux onze, au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore. Possible ça. Tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Touchez-moi, palpez-moi, vous voyez bien. Puis Jésus va manger un poisson grillé. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute et lors de la dernière apparition en Galilée rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent. Oh là là, c'est pas vrai ça. Pas possible. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Donc ceux qui disent « mais c'est un truc arrangé, c'est une propagande, c'est un truc comme ça pour... hein, c'était déjà l'opium du peuple à l'époque. Hein. » Ben non, parce que les évangiles nous montrent le cheminement des apôtres qui sont devant une réalité qui les dépasse. Et il leur faut un peu de temps pour accéder au mystère, si vous voulez. Donc c'est comme une entre guillemets, preuve que ce n'est pas un produit de la foi ou de leur foi. Non. C'est une expérience qu'ils ont faite devant la réalité de Jésus ressuscité. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Alléluia. Bon, si jamais certains d'entre vous n'étaient pas sûrs de la résurrection, j'espère que maintenant c'est bon. Hein? L'état de l'humanité, Jésus ressuscité, parce que évidemment on se pose la question, on n'est pas les seuls, tout le monde s'est posé la question depuis le début de l'Église. Et puis on est dans un monde tellement scientifique, tellement focalisé par le comment ça marche, vous voyez, on a des ordinateurs partout. On est très dans le comment, la résurrection, comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé scientifiquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur? Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher et le partage du repas. Donc il n'a pas fait semblant de les toucher. Et il n'est pas resté dans les distances, comment on appelle ça là, en ce moment là. Voilà. Et le partage du repas. Bon, il a vraiment mangé. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion. Ce n'est pas un autre corps. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise où et quand il veut. Formidable. Car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Notons toutes ces choses parce que on va le voir. La résurrection du Christ, il est le premier ressuscité d'entre les morts. Donc ce qui arrive au Christ nous arrivera à nous. Prémisse. Principe. Alors, c'est fantastique. Enfin, c'est pas un film fantastique, c'est fantastique. Enfin, c'est merveilleux. Voilà. Pour cette raison, aussi Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître comme il veut. Deux points. Sous l'apparence d'un jardinier, voilà, on avait une question d'une auditrice, ou sous d'autres traits que ceux qui étaient familiers aux disciples, afin précisément de susciter leur foi. Ah, très très important. Cesse de me toucher, Marie-Madeleine. Je ne suis pas encore remontée vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je veux remonter avec toi, mais pour que tu puisses remonter avec moi, il faut juste que tu me touches par la foi. Arrête de me toucher les pieds. Touche-moi par la foi, rejoins-moi par la foi. C'est magnifique ça. Parce que s'il était, j'allais dire, tout pareil, tout pareil, tout pareil comme avant sa résurrection, eh bien, on n'aurait pas changé de régime, si vous voulez. Ah, c'est chouette, il est revenu. Il est revenu comme avant. Ah, c'est super. Ben non, il n'est pas revenu comme avant. Il est ressuscité. Donc il y a un cap à passer, un changement. On passe dans une ère nouvelle, avec un rapport avec Jésus, avec qui on a vécu pendant 3 ans, on a écouté, on a mangé avec lui, ta, 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 ta. Mais c'est le même, et c'est le même corps, c'est le même Jésus. Comme dans l'Eucharistie, bien sûr, plus tard, c'est le même. Il n'y en a qu'un de Jésus. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre, entre guillemets, ordinaire. Vraiment, entre guillemets, parce que quand on est comme Lazare, si vous voulez, qu'on sent déjà, qu'on revient, ça fait un peu drôle, hein? C'est pas très ordinaire, mais bon, on comprend ce que ça veut dire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. Voilà. La résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie, au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire. Si bien que saint Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. Tout à fait. Premier Adam, terrestre, glaiseux, hein, de la glaise. Quel cheminement, mon Dieu! Le nouvel Adam, céleste, qui assume notre humanité. L'état donc de l'humanité ressuscitée du Christ, c'est un état de gloire. Est-ce qu'on connaît ça? Ben, on ne connaît pas encore. Il n'y en a qu'une qui connaît, c'est Marie, dans le mystère de son Assomption. Et après, ce sera nous. On en parlera. Et donc voilà un peu les propriétés, si vous voulez, du corps du Christ. Ça y est. L'état glorieux, c'est que il n'est plus situé dans l'espace et le temps. Il peut se rendre présent à sa guise, où il veut, quand il veut. Son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Et en même temps, il mange. Il boit. On peut le toucher. Eh oui. Donc, c'est un vrai corps humain, avec sa matérialité, mais dans un état glorieux. Et ce n'est pas, j'allais dire, de l'ordre de l'imagination. On peut imaginer les choses. C'est de l'ordre de la révélation. La résurrection du Christ nous est révélé, et comme tout ce qui est révélé par Dieu, demande de la part de la créature un acte de foi, d'adhésion de foi. Ce n'est pas parce que j'aurai étudié scientifiquement les choses que je croirai. Non. Pourquoi ? Parce que le domaine de connaissance de la science, c'est un domaine de connaissance de la science, qui a son domaine propre. Le domaine de connaissance de foi a son objet propre, qu'est Dieu, qui se révèle sur l'autorité de sa parole et qui est vérité. Alors, on ne croit pas en la science. La science n'est pas objet de foi. C'est Dieu seul qui est objet de foi. Et ce qu'il dit, ce qu'il révèle. Donc, au niveau de la science, on peut émettre des hypothèses vérifiables, vérifiées, pas vérifiables, et puis on change, et puis on avance, et puis on conteste, et puis on avance, et puis on dit, ben non, ça on pensait que c'était comme ça, et puis finalement c'est pas comme ça, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est autre chose. Donc la foi et la science, si vous voulez, c'est juste pas concurrentiel. On peut être un grand scientifique et ne pas avoir la foi. On peut être un grand croyant et être juste incompétent en science, c'est pas un problème. Et puis on peut être un grand croyant et un grand scientifique, voilà. Et puis on peut être pas croyant et pas scientifique aussi, voilà. La science ne sauve pas, la foi sauve. Parce que quand on se met à adhérer à Dieu qui parle, eh ben ça libère la puissance de Dieu qui nous emmène sur un chemin de vie. La connaissance, j'allais dire, ne sauve pas. C'est une gnose. Une gnose, c'est le gnosticisme, vous savez, la gnose, c'est condamné par l'Église. Penser que plus tu vas engranger des connaissances dans plein de domaines, plus tu seras sauvé, non, c'est Jésus qui sauve. Et quand tu as foi en Jésus, Sauveur, tu entres dans une vie de sauvé. Voilà. Paragraphe 647. La résurrection comme événement transcendant. Ô nuit, chante l'exultète de Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'était faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la résurrection n'en demeure pas moins, en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire, au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Il y a donc le fait de la résurrection et le mystère de la résurrection. Le fait de la résurrection n'est pas objet, j'allais dire, de foi. C'est un fait constatable, donc on n'est pas obligé d'avoir la foi pour se dire, ben, la résurrection, encore une fois, est un événement constatable historiquement. Et les historiens qui n'ont pas la foi, et qui doivent le dire, ben, s'ils sont des bons historiens. Et puis, il y a le mystère de la résurrection, et là, c'est objet de foi. Et donc, si tu ne crois pas, ben, tu restes en marge, à côté, en dehors du mystère. Deuxième point, la résurrection, œuvre de la Sainte Trinité. La résurrection du Christ est objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ, son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Puissance du Père. Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu avec la puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux du Seigneur. Donc, l'Esprit-Saint. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter, au sens actif du mot. Ça, c'est bien, hein, ceux qui connaissent le grec, hein, ça aide. Hein. Dans l'Évangile, donc, quand Jésus parle de sa résurrection, c'est au sens actif. Le Fils de l'homme va activer sa propre résurrection. Ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité. » 1 Thessaloniciens. Donc, on voit que les trois personnes divines sont à fond, évidemment, impliquées dans l'œuvre de la résurrection de Jésus. Rappelez-vous, pour la création, combien de créateurs il y a? Rappel du catéchisme, ben, un créateur. Très bien, bonne réponse. Qui donc est créateur? Ben, le Père est créateur, le Fils est créateur, l'Esprit-Saint est créateur. Ça fait combien de créateurs? Ben, ça en fait qu'un. Et voilà. Le Père ressuscite son Fils, l'Esprit-Saint vivifie, ressuscite Jésus. Et le Fils se ressuscite. La Trinité, Trinité des personnes, un seul Dieu. C'est une puissance. La résurrection est donc le haut lieu de la révélation de la Sainte Trinité. Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ qui est restée unie à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Saint Grégoire de Nyssa nous dit « Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. » Mais, je rajouterai, sur un mode complètement nouveau. Troisième et dernière partie, sens et portée salvifique de la résurrection. Alors là, on va parler un peu de nous aussi. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi. 1 Corinthiens 15, 14. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Confirmation. Très important, ce mot. Et ça, voilà. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ, le Christ a donné la preuve définitive qu'il l'avait promise de son autorité divine. Jésus est Dieu. Jésus est homme. Jésus est vrai homme. Pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup du cardinal Journé, qui résume en une phrase, c'est le génie des théologiens qui font la théologie à genoux, eh bien c'est de résumer en des phrases simples une profondeur extraordinaire. Jésus n'est pas pur homme, mais il est vrai Dieu, vrai homme. Ah, je le cite de tête, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Enfin bref, ça fait comprendre que bien sûr il est vrai homme, mais il n'est pas pur homme. Voilà, c'est ça. Il est vrai homme, mais pas pur homme, parce que Jésus est Dieu. Sa personne est divine. Et la résurrection vient manifester d'une manière puissante sa divinité. La résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. L'expression « selon les Écritures » vous savez, souvent, on entend « selon les Écritures »,« selon les Écritures »,« selon les Écritures », indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. Donc, la résurrection, accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit « quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis ». Je suis cette expression de Exode 3, bien sûr. Révélation du nom divin, du nom de Dieu. Quand Moïse posait la question, mais quand j'irai voir mes frères là en Égypte, là, ils vont me dire, mais qui c'est qui t'a parlé? Tu te prends pour qui toi? Ben, tu leur diras que je suis. Je suis. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment je suis. Le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs, « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er, « Tu es mon Fils, moi-même aujourd'hui, je t'ai engendré. » La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Le paragraphe 654 est très important. Et 655. Le 654 dit ceci. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, Jésus nous libère du péché. Alléluia. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une vie nouvelle, à une nouvelle vie. Alléluia. Celle-ci est d'abord la justification, comme on dit, qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale. Car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Allez annoncer à mes frères. Et vous savez quoi, frères et sœurs, c'est la première fois qu'il parle de nous comme ses frères. Avant sa résurrection, il ne disait pas mes frères sur nous. Il ne parlait pas de nous comme ça avant. Et là, il dit allez annoncer à mes frères. Pourquoi? Ça y est. L'adoption filiale, je vous ai adopté mes cocos. Vous êtes fils dans le fils maintenant. Venez, allez, monte avec moi vers ton père et mon père et ton père, vers ton Dieu et mon Dieu. Monte, tu es fils, tu es fille. racheté, sauvé, monte. Frère, non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle, réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Enfin, la résurrection du Christ et le Christ ressuscité lui-même est principe, écoutez bien, principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, ça y est, c'est bon, on est tous morts, tous aussi revivront dans le Christ. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. C'est vrai ça? Aujourd'hui, le Christ ressuscité vit dans notre cœur. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. Alors voilà, frères et sœurs, que ce Jésus ressuscité est principe et source de notre résurrection future. Et lorsque nous disons dans le credo que nous croyons en la résurrection de la chair, nous pouvons croire en notre résurrection de notre chair, car le Christ est bel et bien ressuscité dans la chair. Il a désormais une chair glorieuse, nous l'avons vu, et c'est cette chair glorieuse qui nous est promise. Alors en une minute, eh bien, la résurrection finale, tous ressusciteront. Les damnés comme les bons. Mais les damnés ne seront pas beaux à voir. Les bons, ils seront juste splendides, de la splendeur, de la beauté, de la profondeur de la vie divine qui doit s'épancher jusqu'à notre chair. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais garder ça pour la prochaine catéchèse. Hein? Voilà. Mais je voulais aujourd'hui faire vous lire et commenter tout ce que le catéchisme dit sur la résurrection. C'est juste magnifique. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.